Cap Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap Cap avec Anne-Laure Bonnel. Okay. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Je reçois ce jour une invitée qui, pour le moins, a beaucoup de cordes à son arc. Je vais en citer quelques-unes, mais elle nous expliquera ça, bien sûr. Consultante média, influenceuse digitale, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, elle me reprendra. Réalisatrice et reporter de guerre, auteur, scénariste, intervenant média auprès de différentes institutions d'enseignement. Elle participe ou elle crée des installations interactives et immersives. C'est dire que Anne-Laure Bonnel va avoir beaucoup de choses à nous raconter. Bonjour.
Bonjour Jacques, merci de me recevoir.
C'est un grand plaisir. Et puis, on va peut-être découvrir beaucoup de métiers parce que finalement, en Occitanie, je ne sais pas si on pratique ou si quelqu'un est capable de pratiquer cet ensemble de métiers. Alors, si vous deviez définir votre profession, votre métier, comment le feriez-vous ?
En tout cas, je ne pourrais peut-être pas la définir précisément, mais je pourrais dire quel est le cheminement de beaucoup de curiosités qui m'ont amené à m'autoriser à découvrir plusieurs univers professionnels. Et j'ai été guidée par des rencontres, par des questionnements qui tous ont gardé un fil conducteur qui a, à travers aussi bien l'art que les médias, que l'enseignement, une interrogation perpétuelle sur l'ère dans laquelle nous vivons, une analyse du monde que l'on peut établir sur tous les supports et aussi bien sur l'art que sur le digital, etc. Voilà, il y a un lien, il y a un parcours hasardeux lié aux rencontres et à la curiosité, mais il y a le lien et le lien qui est celui de comprendre le monde dans lequel on vit et l'interroger sans cesse. Voilà, c'est cette incompréhension ou cette quête qui a toujours guidé les différents activités que j'ai fait tout au long de ma carrière.
Vous parlez de curiosité, mais enfin, il y a plus que de la curiosité, parce que derrière, il y a des formations solides. J'ai cru voir de master en scénario, en production, sociologie, en communication des médias et autre chose, je crois. Ça ne s'est pas fait de façon spontanée, cette affaire.
Oui, alors, l'idée pour moi, lorsque j'étais étudiante, était de trouver une voie qui me permettrait, de façon non redondante, d'explorer le monde. Donc, le monde aussi bien des idées que sur le terrain. Et si vous regardez donc précisément l'ensemble de ces diplômes ou de ces formations, toutes sont une loupe sur ce qui peut fonctionner dans les médias, le succès. Moi, j'ai plus jeune, je m'interrogeais sur les blockbusters. C'était pour moi une manière de comprendre comment le monde pouvait être façonné. On sait que le cinéma, la culture, etc., ont une influence sur la manière dont on va à terme penser une société, etc. Donc l'analyse des médias était allée dans cette quête-là de compréhension. Est-ce que les mass médias, est-ce que les blockbusters peuvent ou non avoir une influence sur une société, en quoi ils peuvent façonner de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser. Ensuite, je me suis interrogée sur la déontologie du métier de presse et de création et d'écriture. Et cette quête-là, qui traverse en filigrane mon parcours, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'épanouir, comprendre le monde, tout en travaillant avec une forme d'intégrité et d'absence d'asservissement d'une société qui est de plus en plus consumériste. Voilà,
Vous avez
c'est
bien
finalement.
résumé la question, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont vous allez y répondre. Vous y avez répondu.
C'est délicat, hein, mais en tout cas, je sais que depuis très jeune, j'ai toujours été très, non pas mal à l'aise, mais en tout cas étonnée du pouvoir consumériste sur l'individu. Alors, étonnée, évidemment, j'y trouve des explications hein, qu'on a tous, hein, l'effet du marketing, etc., etc. Tout ça est facile à comprendre, mais j'avais envie de dépasser ça. Comment on pourrait défaire la puissance et l'aliénation du consumérisme chez l'individu? Bon, je n'y suis pas arrivée, mais en tout cas,
On est
c'était
quelques-uns
un
à y
désir.
travailler, on est quelques-uns à y
Voilà.
travailler, je pense, mais la réponse n'est quand même pas très aisée, hein.
Non, 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 non. Et
Parce
puis bon.
qu'on est plus souvent déçu que l'on a de satisfaction dans cette quête ou cette
Ah
croisade.
ben, c'est certainement le travail de toute une vie. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte plus jeune, hein, où on a le sentiment que tout est possible. Mais ça, en tout cas, j'ai pu en éprouver les difficultés à tous les niveaux. Mais je suis restée habitée par ce souhait, voilà,
Mais
et ce désir.
vous n'êtes pas déçu du résultat parce que vous êtes une jeune professionnelle, si je puis dire, mais vous avez quand même déjà une expérience importante. Vous avez quand même dû constater que aujourd'hui, la presse n'est plus ce qu'elle était, qu'elle est aux mains de quelques milliardaires français ou autres et que finalement tout est dirigé, encadré et que le souci du lecteur n'est pas du lecteur ou du consommateur de presse, de nouvelles, n'est pas la première chose qui compte, c'est autre chose.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, et évidemment, je partage pleinement votre réflexion. Oui, alors, en effet, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il annihile la diversité de points de vue, aussi bien d'une société, si on reste sur de la presse nationale, mais également à l'international. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Ça peut avoir des impacts en termes de conflits, de manipulation de la pensée. Que faire? Moi, je reste avec l'espérance chevillée au corps. Malgré tout, on a, grâce à Internet, des entrées de portes critiques. On a encore le cinéma. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement loin depuis la COVID. Mais si on oublie les masses médias télévisuels, on a encore dans la presse peut-être quelques zones aujourd'hui d'expression possible. Et ensuite, il faut dans tout ça faire confiance à certaines personnes qui peuvent vous entourer. Moi, j'en ai croisé j'ai eu la chance d'en croiser tout au long de ma carrière, qui y croient, qui se battent hein, pour faire exister une certaine forme de pensée, soit au travers de médias, soit au travers de festivals. Je pense notamment à Serge Regourd, qui
Ce sera
tâche.
pardon de vous couper alors, mais ce devrait être mon prochain invité, certainement la semaine dernière, et notamment à l'occasion de la sortie de son livre publié par mes amis d'indigènes.
Voilà. Donc, il y a des poches de résistance. Ensuite, moi, j'ai un deuxième constat qui me rassure et que je peux tirer de l'enseignement. Les étudiants deviennent, avec l'accessibilité pardon, à Internet et à la, pour le meilleur comme pour le pire, mais notre devoir à nous d'enseignants et d'intervenants, c'est de les former au discernement. Je constate qu'ils ne sont plus prêts à accepter une forme de prêt-à-penser. Donc, ça évolue très lentement. Évidemment, il y aura pas de… c'est très délicat. On est proche du combat de David contre Goliath, c'est évident. Mais on a des poches de pensée, aussi bien chez les étudiants que sur Internet, qui voient le jour et qui sont de plus en plus présentes à travers certains groupes de pensée sur Internet que je ne citerai pas. Ensuite, il y a un deuxième espoir parfois. Évidemment, vous ne ferez jamais le poids face au prime time de TF1 et d'M6. C'est indéniable en termes de millions de spectateurs, etc. Mais votre parole peut être encore entendue à travers des festivals, à travers des interviews comme la vôtre, où vous donnez l'occasion à des personnes qui essaient de penser autrement, de prendre un peu de distance sur le réel, de s'exprimer.
Oui,
Dans tous les cas, vous savez, quand vous êtes comme ça, et je pense que vous faites partie de cette frange d'individus, vous ne pouvez pas aller contre soi. À partir du moment où on a le sentiment que la rigueur, l'intégrité et la noblesse de son travail sont pour vous des valeurs et des vertus auxquelles vous croyez fermement, vous ne pourrez pas vous corrompre intellectuellement. Malheureusement, moi je vais vous dire, il y a de la plaisanterie, mais pas que, parfois je les envie. C'est beaucoup plus simple. Mais on ne peut pas aller contre soi-même.
Est-ce que vous pensez qu'on est d'abord dans un pays toujours démocratique, et est-ce que vous pensez… Bon, alors, il y a des résistants, ce que vous venez de dire, finalement, il y a des résistants, oui, mais est-ce qu'il y a des gens pour les écouter aujourd'hui? Il y a un sociologue français qui a écrit, on n'est pas encore à la rubrique littéraire, mais qui a écrit un livre, Gérald Bronner, que vous devez connaître, Apocalypse cognitive, qui démontre quand même, et c'est une thèse que je soutiens depuis longtemps, qui démontre quand même que les temps de cerveau sont extrêmement limités aujourd'hui pour s'intéresser à ces questions, que l'on sait très bien les orienter vers d'autres choses beaucoup plus futiles, et on rejoint le consumérisme. Et puis je me demande s'il n'y a pas un peu, quelque part, une petite déplétion neuronale quand on enseigne et vous enseignez. Moi, j'ai corrigé aussi beaucoup de copies, j'ai eu des étudiants. J'ai été quand même surpris de la baisse des capacités cognitives des gens que j'avais en face à moi. Et je le constate tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiablement compromis, mais compte tenu du paysage audiovisuel, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, je ne vois pas trop aujourd'hui la solution. Alors, il y a des poches de résistance, vous en faites partie, j'espère que la Radio Esprit Occitanie en fait partie aussi, on travaille là-dessus, mais est-ce que ça suffira? Ça fait un peu le colibri pendant l'incendie de la savane, on porte notre goutte d'eau, mais après.
C'est très intéressant cette réflexion au-delà des analyses de Bronner. Moi, il y a un penseur qui est un peu sorti maintenant des rangs, en tout cas qui a été beaucoup moins médiatisé, un sociologue du reste, qui est Gilles Lipovetsky.
Oui.
Qui a porté une analyse sur la société, notamment l'ère du vide de la séduction. On est rentré dans une phase de séduction extrêmement mortifère. L'ère du vide, alors là, qu'est-ce que ça engendre? C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système où on a annihilé toute tout goût du courage. C'est comme si on assistait à une certaine forme du déclin du courage, mais à tous les niveaux, politiques, chez les étudiants, etc. Hein, le courage civique ou créatif ou intellectuel, on peut se demander s'il n'a pas déserté. En tout cas, on le croise de moins en moins. Là, je suis d'accord. Malheureusement, on ne peut pas le nier. Il y a un nivellement par le bas de la culture et donc une difficulté certaine aujourd'hui de penser de façon critique. Et ça manque énormément. Ça manque énormément. L'homme, c'est mon opinion, hein, est façonné par évidemment l'environnement qui l'entoure et ce qui lui est donné à voir et à entendre quotidiennement. Et on est dans un système aujourd'hui où il y a très peu de silence, et le silence est nécessaire pour faire le bilan. Les smartphones en continu ont du bon, mais ont également sont extrêmement un masque funeste qu'on va éclairer, qu'on éclaire déjà d'ailleurs de plus en plus avec certains scientifiques hein, qui démontrent la difficulté aujourd'hui pour des jeunes gamins de se concentrer plus que quelques secondes. Mais je n'ai pas envie de tomber dans ce fatalisme-là. Ce que je constate, c'est que quand je pars, et de façon très délicate, croyez-moi, dans des zones de guerre, je découvre, et ça ne dure que quelques secondes, des étudiants qui sont extrêmement admiratifs et qui ont envie de faire autre chose, qui se rendent compte qu'on peut faire d'autres formats. C'est assez étonnant. Enfin, moi, j'avais en tout cas été assez bouleversée par cette réflexion. La première année où j'ai enseigné à l'École supérieure de journalisme de Paris, j'ai présenté un film sans commentaire. Simplement un constat, voilà, une sorte de road movie en zone de guerre, mais sans commentaire. Et cette jeune fille n'avait jamais vu à la télévision, donc on parle de formatage là, hein, clairement, aussi bien d'idéologie, de contenu, mais que de forme, elle ne s'était même pas posé la question, parce qu'elle n'en avait pas vu, de capacité de montrer le réel sans en commenter et de laisser au spectateur sa propre marge de manœuvre pour réfléchir le monde et l'analyser. Donc, vous voyez, si quelquefois on peut en sauver un, deux, trois et leur redonner cette envie de penser, c'est toujours ça. J'ai été étonnée, il y a quelques bonnes nouvelles au milieu de ce désastre intellectuel et de cette ère du vide, parce que c'est désastreux. Moi, quand je sors, là, je sors très rarement de chez moi, non pas par obligation, mais par goût, parce que j'aime tellement découvrir, lire, etc., que j'ai toujours quelque chose à faire. Bref, j'ai accepté il y a 2 jours de sortir, je me suis retrouvée dans le centre de Paris. Tout le monde est habillé pareil. Il y a un formatage imprétent-pensé. On est dans un système de pseudo-subversion où les jeunes aujourd'hui se croient cool parce qu'ils ont les jeans troués et des graphes sur les murs. Avec la même coupe de cheveux, le même sac à main, etc. Donc, ils sont dans une forme de duplicata. Hein, on est dans le duplicata de la société. Hein, voilà, il y a un formatage aussi bien au niveau des idées qu'au niveau de l'habillement, qui est totalement inconscient. Personne ne s'en rend compte. Enfin, les principaux intéressés. Et je me suis posée là, et c'était donc sur un banc. C'était extrêmement instructif. La subversion aujourd'hui, c'est de se teindre les cheveux blancs ou avoir des mèches roses, une absence de pensée et de... Je me suis permis de me taire parce que je ne vous voyais plus. Donc, dans ce quartier de Paris que je ne citerai pas, on a favorisé depuis des dizaines et des dizaines d'années la culture du bien-être. Donc, les gens peuvent aujourd'hui avoir 15, 30 paires de baskets, et je le vois auprès de certains étudiants. Hein, donc, ils ont pu acquérir la liberté tant désirée de l'achat compulsif. Mais au final, la question que moi, je me pose et que j'ai envie de leur poser, mais que je n'ai jamais osé, c'est la liberté de faire quoi ? Si la liberté aujourd'hui, c'est de pouvoir se teindre les cheveux en rose et de crier à la subversion de façon manichéenne en décidant de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, oui, là, je désespère et je vous rejoins. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Si vous faites le constat de cette subversion en carton-pâte, de l'absence de questionnement et d'un nivellement de l'éducation plus qu'inquiétant, bon, sans même se demander si ce prime time en continu et ces chaînes en continu ne participeraient pas hein, de ce cette façon de plus en plus limitée de penser la différence, de penser les cultures, de penser l'autre, l'ailleurs. Voilà, le constat que j'ai, qui peut être, j'espère, qui ne sera pas traduit ou pensé comme réactionnaire, c'est d'en revenir à des fondamentaux, simplement en se posant quelques questions. Aujourd'hui, nous avons le sentiment, je dis bien le sentiment, parce qu'il faudra encore définir ce qu'est la liberté, mais la liberté de faire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Un homme ne peut se juger non pas en fonction de ce qu'il dit ou de ce qu'il porte comme vêtement, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un vrai problème, mais par rapport à ce qu'il bâtit, ce qu'il fait, ce qu'il édifie. C'est un parcours, l'existence. On a une presse, je reviens à votre question, très bien, on a une presse, elle est vaste, etc. Et une presse pour dire quoi ? Quels sont les points de vue qui divergent me rendre dans plusieurs zones qui sont très souvent peu médiatisées par les médias mainstream, je vois bien qu'il y a un écart important et inquiétant entre ce que les gens vivent et la manière dont c'est rapporté dans nos médias. Oui, sans parler là de conflits autres, ne serait-ce que l'absence de compréhension de la culture de l'autre et un flot de stéréotypes qui sont profondément dangereux, parce qu'ils participent aussi de la formation des jeunes, des citoyens, des Français qui n'ont pas l'occasion de, par flemme ou par moyen économique, d'aller voir cet ailleurs.
Vous disiez comprendre le monde, mais pour comprendre le monde, il faut encore avoir les outils intellectuels de la compréhension. Et je ne pense pas qu'ils soient enseignés aujourd'hui. L'éducation nationale, avec ses programmes et sa façon de travailler, me paraît être une faillite complète. On ne sort pas des têtes bien faites, comme l'avait dit un certain, mais bien pleines, oui. Enfermées dans des silos techniques de plus en plus étroits, oui. Mais on ne forme pas des citoyens du monde, pas du tout.
Mais oui, parce que je pense que tout ça, le résultat, l'économie a pris le pas sur l'esprit. On forme peut-être des citoyens à être économiquement viables. Les humanités ne sont plus enseignées, ou alors il faut faire partie des rares prépas, donc une forme d'élite de la pensée. La philosophie, ça restera toujours à mes yeux extrêmement scandaleux qu'elle ne soit enseignée qu'à partir de la terminale, qui est quand même qui sont les premiers éléments qui vont vous permettre de distinguer, de réfléchir, de vous distancier. Pourquoi ? Alors, soit c'est une visée politique, économique. On fait le pari que aujourd'hui ce qui compte, et on le voit notamment dans la culture, hein, regardez, la culture aujourd'hui ne compte plus très clairement. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'être un homme? Et est-ce que l'éducation nationale se pose cette question? Je n'en sais rien. Je ne veux pas rentrer dans des débats qui sont effrayants. Est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que c'est une forme d'asservissement? Parce qu'évidemment, ces questions me traversent l'esprit, comme vous et comme beaucoup. Moi, j'en appelle, en tout cas, puisque je n'ai pas d'influence sur ces programmes de l'éducation nationale, à mes étudiants de leur refaire palper ou sentir quelque chose, en tout cas, qui leur appartient, la nécessité de retrouver une forme de responsabilité morale, de leur faire comprendre que la morale n'est pas un gros mot, qu'un individu a des choix et que c'est ces choix-là qui vont le définir, ce qu'il va faire de sa vie. Je les invite également à analyser, vous savez, c'est comme Picasso, avant de passer à de l'abstrait, il maîtrisait parfaitement le figuratif. Donc, je les invite à s'éloigner de l'information immédiate pour reprendre la lecture, pour peut-être se pencher davantage, si vous voulez, aujourd'hui, comprendre l'Afrique, ne pas regarder quel CI, mais reprendre certains ouvrages de Pierre Péan qui vont les questionner et leur apporter d'autres éclairages, d'autres points de vue, et d'essayer de remettre au goût du jour des mots que l'on n'emploie plus, hein, mais ça, ni dans la presse, ni sur les plateaux télé, qui sont des mots très simples de déontologie, d'humilité et d'intégrité.
Est-ce que vous diriez qu'à force de croire, on oublie de douter? C'est une formule que vous connaissez bien, je crois, non?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Lazarus?
Oui, Lazarus, mais oui, mais ça c'est fondamental. Le doute en permanence, le doute en permanence, le doute non pas comme posture, mais comme outil vous permettant de comparer et de ne pas accepter de façon passive tout ce qu'on vous donne à consommer intellectuellement, à voir, à comprendre, à lire, mais de vous forger votre propre pensée du monde. Et ça passe d'abord par une mise en critique. Et vous verrez, c'est quelque chose également que les étudiants peuvent comprendre dans un certain sens. Il y a autant d'analyse esthétique d'une œuvre d'art que d'individus. Donc, si on peut penser de façon multiple une œuvre d'art, eh bien, on peut penser de façon multiple la politique, le social, l'écologie, les valeurs, la morale. Il n'y a pas qu'un point de vue, donc la nécessité de douter, non pas pour tout chambouler, mais pour d'apporter un 360 et d'autres éclairages, d'autres manières d'appréhender les sujets.
Alors Bonnel, on va faire une pause musicale. La première, c'est vous qui l'avez choisi, Schubert, trio numéro 2, opus 100. Mm-hmm. Nous l'écoutons. Voilà, Schubert, le trio numéro 2, le choix de notre invité de ce jour, Anne-Laure Bonnel. Anne-Laure Bonnel, j'ai lâché avant cette pause musicale un nom, Lazarus. Alors, vous pouvez nous en dire plus. Moi, j'ai été regardé, je ne connaissais pas Lazarus. J'ai été regardé le petit film que vous avez dû tourner. Je n'ai pas très bien compris qui était Lazarus et quel était son but. Moi, j'ai eu un peu l'impression d'avoir un, pardon, hein, vous allez certainement me contredire, mais une espèce de fantomas, parce qu'il est équipé d'un masque, une espèce de fantomas populiste. Est-ce que je n'ai pas tout compris?
Alors, Lazarus, c'est un projet sur lequel j'ai été donc invitée professionnellement. Le choix du personnage, de l'individu, ne m'était pas offert. J'ai dû donc respecter une charte qui était préexistante à mon arrivée. Par contre, c'est un projet pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de respect, car il a réussi à insuffler la notion de doute sur des croyances qui peuvent être extrêmement mortifère à tous les niveaux. Et donc, cette capacité de, donc un programme destiné aux plus jeunes, de comparer à travers plusieurs points de vue le réel en permanence. Ce qui était le travail des Lumières, du reste, hein, non pas accepter, mais éviter le mode postural qui est très pénible, hein, si c'est pour remettre en doute, ça n'a aucun sens. Mais simplement, pourquoi je pense comme ça? Pourquoi ceci est acceptable ou non? Qu'est-ce qui fait véritablement sens? En quoi mon existence pourrait-elle faire sens? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Qu'est-ce qui peut m'enfermer au contraire? En tout cas, donner des outils qui permettent d'y voir tout simplement un peu plus clair. C'était ça le projet Lazarus. D'essayer de non pas penser à contre-courant, mais de savoir que le doute est possible. Ça peut sembler extrêmement anodin, mais j'ai été très, très étonnée de voir combien les individus, quelle que soit leur classe sociale, ont une tendance à prendre pour incontestable les informations que l'on donne au JT. C'est comme si on ne pouvait pas leur mentir à travers la télévision. Ce n'est pas possible, c'est trop gros, on ne peut pas vous raconter des niaiseries, ça ne peut pas être biaisé, c'est forcément du travail qui a été revérifié, etc. On ne se permettrait pas de dire des sottises dans les médias. Et c'est en prenant conscience de ça, la force des médias, ça reste quand même un vecteur de confiance pour la majorité des Français, et je pense à l'international, ça doit être la même. À partir de ce moment-là, il est nécessaire de se rendre compte que les médias, ça reste des êtres humains. Comme tout être humain, ils sont propices à des intérêts qui les dépassent, des influences qui les dépassent, également des erreurs inhérentes à la culture ou l'information que l'on a ou que l'on n'a pas. Et ne pas prendre pour vérité incontestable tout ce que vous allez pouvoir regarder, aussi bien en ligne sur Internet que à travers votre écran de télévision.
Alors, on va venir à une autre de vos activités, si vous le voulez bien, qui est le terrain sur lequel vous êtes allé. Pas des terrains faciles. Vous êtes allé au Donbass, vous êtes allé au Karabakh, vous êtes allé tourner des films, alors films documentaires et pas journalistiques. Je crois que vous attachez une importance à cette distinction. J'ai lu que vous avez écrit: le docu est en soi, enfin le documentaire, pardon, est en soi une prise de position, un combat. Donc vous êtes une journaliste, je ne sais pas si vous avez d'ailleurs cette qualification de journaliste, mais vous êtes allé sur le terrain. Alors comment ça s'est passé, notamment le dernier? Vous êtes allé au Karabakh, une situation géopolitique extrêmement complexe qui n'a absolument pas du tout intéressé l'Europe et la France encore moins, puisqu'on n'en a quasiment jamais entendu parler. Je sais qu'on va bientôt pouvoir voir le film que vous avez tourné et ce sera important de le visionner. Comment ça s'est passé sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez filmé? Dans quelles conditions?
Alors, tout d'abord, c'est un conflit qui, pour la première fois, mais de façon extrêmement influente, a reposé sur une véritable guerre de l'information à travers les réseaux sociaux. Évidemment, tout conflit repose sur la guerre de l'information, ça c'est de tout temps. Mais là, les réseaux sociaux ont participé grandement à la diffusion d'informations très dangereuses, massives, qui ont donc touché les foyers arméniens et qui étaient assez terribles à voir. Deuxième chose, j'ai assisté moi à une zone qui a été totalement vidée de sa population. Donc j'ai filmé l'exode et le retour petit à petit d'une population qui se reloge tout doucement, avec en filigrane évidemment une crise humanitaire et une crise politique, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai vu et ce qui m'a le plus surpris, c'est la première fois que des exactions innommables, et c'est tout le travail du film justement, c'est ce fil conducteur qui guide la narration de ce prochain documentaire, comment aujourd'hui on peut commettre des actes d'une barbarie invraisemblable, ahurissante, et s'en vanter sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait une enquête avec les deux ombudsman, donc les défenseurs des droits de la paix auprès de l'ONU pour l'Arménie et l'ombudsman au Karabakh, et j'ai récupéré un maximum de matière pour comprendre ce qui s'était passé pendant ces 44 jours dans le Haut-Karabakh. Et là, à travers un travail sur les archives et un travail sur le peu de personnes que j'ai pu croiser, parce que la zone était encore très vide quand je suis arrivée, j'ai confronté les images qui m'ont été données, les témoignages de civils et l'atmosphère en général. Ça, c'est pour la narration, c'est pour la colonne vertébrale, du documentaire. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Alors là, ça n'a rien de, malheureusement, de nouveau, hormis ces images-là qui ne sont pas un scoop, mais qui vont monter un autre regard sur les faits perpétrés pendant 44 jours, c'est la violence que génère tout conflit, l'effet de sidération, les parents qui recherchent encore aujourd'hui des enfants, des soldats disparus, les enlèvements, une incompréhension totale. Là, on a touché de très près dans le Haut-Karabakh des questions de barbarie et de crimes de guerre sans précédent. Sans précédent. J'en ai vu hein, pas mal hein, des zones de conflit. Mais alors là, il y a une haine et une violence qui est qui a dépassé de loin ce que je pouvais imaginer avant de m'y rendre. Et donc, vous arrivez là, ces images dont je vous parle et qui seront présentes dans le film ont bouleversé ce tout petit pays, qui, ce tout petit pays n'est pas reconnu par la communauté internationale, donc cette enclave, pour être plus précise, hein, et croisé des regards sidérés. Et y a de quoi, il faudra voilà, voir le film pour comprendre, mais une certaine incompréhension. Et ça m'a beaucoup rappelé un ouvrage qui m'avait fait réfléchir plus jeune dans mes années de formation, c'était La banalité du mal de Hannah Arendt. Et voilà, là, j'ai filmé La banalité du mal, j'ai récupéré La banalité du mal. On peut aujourd'hui torturer, on peut tuer de façon ignoble et barbare. C'est très difficile encore pour moi de raconter ces images parce qu'elles sont insoutenables, mais l'homme aujourd'hui est capable, voilà, on est capable de faire ça encore aujourd'hui et de s'en vanter sur les réseaux sociaux et de l'assumer. Donc, on l'assume à la face du monde. Voilà ce que j'ai filmé. Et ça, je crois que c'est assez nouveau à travers les réseaux sociaux, non pas à travers la monstruosité, l'entraînement de foule que génèrent toutes les guerres, plus évidemment la fatigue, les pressions. Enfin, les guerres sont toujours sales. Hein, on ne peut pas être manichéen et envisager un camp du bien, un camp du mal. Tout ça est beaucoup plus délicat. Évidemment que les deux parties ont agi et ont par riposte ou pas et ont été ont touché des civils. Mais il y a quand même un côté, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, qui là pour le coup est arrivé à quelque chose d'invraisemblable pour la pensée. Et je pèse mes mots. Je crois que là, il faut replonger dans Hannah Arendt. Sinon, on ne peut pas. C'est très difficile. Encore pour moi aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre la démarche, non pas de la torture. Hein, vous savez pertinemment que toute guerre porte en elle les stigmates de la torture. Et là, de les mettre sur les réseaux sociaux, de se filmer et donc de les présenter à la communauté internationale. Et là, il y a un vrai basculement.
Quand est-ce qu'on va pouvoir voir votre documentaire et où le verra-t-on?
Alors, à votre avis, comment les choses ont dû se passer? Comme toujours, quand vous faites des films à contre-courant, c'est difficile. Donc, je suis partie seule avec ma caméra, j'ai tourné, etc. Il a fallu se débrouiller parce qu'aucun grand média n'avait envie de parler de ça. Ça dérange beaucoup de monde. La Turquie, hein, pour vous donner quelques pistes, a les mains rouges et dégoulinantes. Donc, j'ai mis un peu de temps parce que j'ai eu besoin de l'aide de traducteurs, évidemment. Il y a beaucoup à traduire. Aujourd'hui, je suis proche d'un montage qui commence à prendre forme. On travaille à deux là-dessus. Et on approche de la fin, donc il nous reste du mixage. Je pense, j'espère, que dans 15 jours, on aura quelque chose déjà dont on est fier parce qu'on porte une responsabilité énorme. quand je vous parle d'intégrité, de déontologie et tout ce qu'on a pu évoquer au préalable, moi, c'est ce stress-là que je porte sur les épaules. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai dit à l'introduction, je le mets d'abord en pratique dans mon travail. Et croyez-moi, je ne sortirai jamais une image, un, sans savoir qu'elle est inattaquable, et deux, qu'elle rentre parfaitement... qu'elle rende parfaitement compte de la situation et des enjeux qu'elle représente. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est sûr que si vous voulez faire du prime time pour un JT sur le sujet, c'est plié en 3-4 jours. Là, à deux, en bossant, en élevant ma fille, les cours, etc., nous arrivons à terme au bout de 2 mois, ce qui est quand même pour un long métrage. On avance très très vite. Voilà, donc 15 jours, 3 semaines, et on devrait y être.
Pourquoi vous avez fait le choix d'abord d'aller sur des zones de combat, et ensuite pourquoi le choix du Donbass ou du Haut-Karabakh?
Alors, déjà, il y a un premier élément que je considère avant de prendre mes décisions, c'est la médiatisation ou la sous-médiatisation d'un conflit quel qu'il soit. Donc, avant de partir, je travaille avec des intellectuels, des penseurs, des historiens, etc. Et j'essaie de voir avec eux ce qui se passe réellement dans la zone par rapport à ce qu'on a comme information en France. Généralement, je découvre évidemment des propos, des politiques, et non pas des mensonges, mais si, voilà, nommons les choses, des mensonges, du pipeau, hein, voilà, du pipeau. Donc, je vais voir ce qui se passe de mes propres yeux. Donc, on revient au phénomène de l'introduction, la curiosité. Pourquoi? Parce que personne n'y va. Pourquoi personne n'y va? Parce qu'on a encore des enjeux géopolitiques qui dérangent. On a fait le choix, et là je ne vous apprends rien, d'avoir une démarche atlantiste. Hein, et il y a des zones qu'on qualifie, alors je ne parle pas de moi, hein, je parle de l'OTAN et de la politique de la politique internationale, de plus ou moins bien. Il y a des axes fréquentables et des axes non fréquentables. Moi, je pars dans ces zones-là pour, un, ramener des témoignages, deux, montrer la complexité. Je n'ai jamais cru aux questions du bien, du mal, à l'axe du bien, du mal pour reprendre Bush et son invasion en Irak. Et je cherche toujours, même si je n'en parle pas dans les films, ce qui sous-tend la sous-médiatisation, ce sont donc souvent des enjeux géopolitiques, loin du désir de balancer la démocratie désintéressée à droite ou à gauche de l'hémisphère. Voilà ma première motivation. De deux, au Donbass, c'est un film que j'ai tourné s'il avait pu être attaqué, s'il avait pu être critiqué. Certains ont tenté, notamment Benoît Vidkin, je l'ai remis à sa place, hein, je vous le dis très rapidement. C'était inattaquable. Ça a dérangé tout le monde. Évidemment, on accusait la Russie d'envahir cette petite portion d'avoir envoyé des tas de terroristes. C'est faux. C'est faux. Déjà, on savait pertinemment que l'OTAN formait des instructeurs du côté de Kiev, que la Russie ait participé en formant des instructeurs, c'était normal. On avait une partie russophone, russophile et russophone, née sous l'Union soviétique. Vous voyez, donc c'est ce manque de discernement et d'information qui fait croire à la population qu'une zone, le Donbass, a été envahie du jour au lendemain par les Russes et des terroristes pour déstabiliser l'Ukraine. Tout le monde a pris part là-dedans. C'est international. L'OTAN a participé à la déstabilisation de l'Ukraine. La Russie a participé pour sauver ses intérêts. On ne reviendra pas sur les accords de Varsovie, etc., mais vous voyez bien ce que je veux dire. Une grande puissance comme la Russie, à partir du moment où on voit qu'on se rapproche de plus en plus de sa frontière de façon provocante, eh bien, à un moment donné, elle agit. C'est la réelle politique. Voyez. Donc, l'idée, c'est de ramener de la complexité, tout simplement, et de comprendre qu'il n'y a pas dans ces conflits, de gentils russes ou méchants russes, et gentils américains et méchants américains, hein, tout simplement. Et ensuite, cette culture chez moi de donner la parole aux oubliés, qui m'a toujours tenu à cœur, voilà, d'aller là où les gens ne vont pas, de filmer les plus pauvres, les plus déshérités. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça fait partie de ma sensibilité. Et le Haut-Karabakh, eh bien, là, archive aberrante sur les premiers mensonges liés à l'offensive du 27 septembre. On a d'abord accusé les Arméniens, c'était faux, hein, c'est Aliyev et la Turco, donc ça a été une offensive turco-azérie, qui a pilonné à 7 heures du matin Stepanakert à base de bombes à sous-munitions et de phosphore très rapidement. Personne n'en a parlé. Or, les médias ensuite sont revenus sur la première affirmation, mais on a voulu nous faire croire que l'Arménie avait attaqué l'Azerbaïdjan. C'est faux. Premier mensonge. Deuxième mensonge, quand il y a eu riposte, par exemple, à Barda, le Haut-Karabakh a riposté à des offensives extrêmement violentes. Dans le Haut-Karabakh, j'ai pu les filmer. J'ai filmé toutes les villes, un peu comme dans Donbass. Hein. Moi, je prends ma voiture, je vais à droite, à gauche, de ville en ville. Je peux vous dire qu'il y a des zones rasées. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a plus d'électricité. Tout a été bombardé, les infrastructures, etc. Donc, c'est un gros mensonge. Et on peut reprocher. Allons-y, moi je veux bien rentrer dans cette polémique, le marché de Barda, mais il est rentré en riposte. Il y a une question que je ne traiterai pas, c'est toutes les questions en tout cas très complexes et là qui me dépassent, hein, il faut être géopoliticien pour les aborder, droit des peuples à disposer du même ou respect des frontières. C'est tout le problème de cette zone qui n'est pas reconnue. En revanche, ce qui est inacceptable, c'est l'utilisation de phosphore, de mines et de bombes à sous-munitions interdites par le droit international sur les civils, avec l'armée de mercenaires, de Syriens, financés par la Turquie, avec des drones extrêmement meurtriers qui ont fait des dégâts incommensurables. Voilà, droits de l'homme, qui n'ont absolument pas été respectés. Je rajouterai quelque chose d'extrêmement politique, mais je l'assume. Je rappelle que l'Arménie reste quand même à des voisins qui sont compliqués. Hein, c'est un petit pays qui résiste comme il le peut et qui n'a aucune ressource. Hein. Quand on prend Bakou, évidemment, depuis des années, Bakou et le pétrole.
Le pétrole.
Voilà. Donc, les enjeux au-delà maintenant du Haut-Karabakh, et vous le savez, tout le monde le sait, mais tout le monde se taira là-dessus, ce sont des enjeux d'hydrocarbures, d'énergie, de passage de pipeline, etc. Voilà.
L'énergie qui commence à manquer un peu en Europe et un pétrole qui est rentré en déplétion. Donc, on sait qu'il y aura certainement de plus en plus de conflits motivés par l'énergie et par l'eau derrière.
Tout à fait. Voilà.
Anne-Laure Bonnel, nous n'entendrons pas la deuxième bosse musicale parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus important de vous écouter. Je voulais vous faire entendre Aragon un jour chanté par Marc Augeret. Ce sera pour une autre fois. Nous rentrons dans la dernière ligne droite, si je puis dire, de cette émission. Donc, on va essayer d'être un peu plus léger. On sera attentif de toute façon à la sortie de votre film et peut-être qu'après l'avoir visionné, si vous en êtes d'accord, on en reparlera sur Esprit Occitanie, bien évidemment. Je demande toujours à mes invités de me parler d'une œuvre d'art. Alors, vous avez choisi Le Penseur de Rodin. Bon, si on vous a bien écouté, on peut comprendre pourquoi, mais peut-être pour ceux qui n'auraient qui auraient mal écouté, vous allez nous l'expliquer.
Alors, je vais essayer d'être plus joyeuse pour cette fin d'émission, mais c'est délicat hein, dans ce contexte d'être très joyeux. Mais bon, le penseur, pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment qu'il porte sur ses épaules toutes les contradictions humaines, la difficulté de faire un choix, la difficulté de comprendre, un questionnement permanent. On peut y lire beaucoup de thématiques. Moi, quand je regarde cette œuvre, au-delà de sa perfection, etc., esthétique et monumentale, c'est un homme confronté à la tragédie de la vie, de prendre la bonne ou pas décision, de se demander quelle décision on peut prendre, et que tout choix est douloureux. Tout choix qui incombe, qui un tout choix évidemment qui va avoir, qui va faire sens et qui va nous faire porter une certaine forme de responsabilité. Eh bien, il faut le mûrir, le penser, et aucun choix n'est facile et rien de grand ne se fait facilement sans prise de risque. Et quand je regarde le penseur de Rodin, qui d'abord s'appelait le poète, mais le poète, c'est également, voilà, on est toujours rentré là-dedans dans qu'est-ce qu'être un homme. On en revient toujours à cette question, la difficulté de vivre, la difficulté de choisir, la difficulté d'opter pour le courage ou pour l'aliénation, la difficulté de penser, de savoir ce qui est juste, injuste. Voilà, j'ai l'impression que tout ça est porté sur ses épaules et que ça c'est une œuvre qui rend hommage à tout ce qui fait la richesse d'un être humain. C'est choix.
Le moment ou la journée particulière qui a marqué Anne-Laure Bonnel dans sa vie ?
Ah, le moment ou la journée particulière, alors moi c'est assez, assez banal. Il y a un moment que, enfin, la naissance de ma fille a été pour moi, c'est le moment qui me reste ancré en tête. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'ai tellement envie d'horreur, je vais vous dire, j'étais très contente. Mais c'est un moment qui me rend optimiste, vous voyez. C'est de se dire, eh bien, on peut transmettre encore et la vie continue et tout est possible. Voilà. Vous transmettez la vie, donc vous transmettez une possibilité d'action. Et puis, non pas que votre vie, parce qu'on leur ferait apporter trop de choses à ses enfants, ça serait quand même un peu dur, mais on comprend que peut-être grâce à la transmission qu'on aura l'opportunité de faire, que l'espoir est toujours possible d'améliorer.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui...
Un amour inconsidérable, mais là, on n'entrera pas là-dedans. C'est, voilà. L'amour d'un enfant, c'est...
Est-ce qu'il y a une personne qui vous a particulièrement marqué, qui vous a transmis quelque chose de fondamental, qui vous a, entre guillemets, fait, à qui vous seriez redevable ?
Une personne à qui je serais redevable.
Qui vous a transmis quelque chose d'essentiel, qui vous a mis sur le chemin qui est le vôtre, qui vous a permis de vous réaliser ? Ou qui aurait pu être un modèle aussi. Grande réflexion chez Anne-Laure Bonnel.
Oui. Alors, j'ai du mal à répondre parce que c'est un patchwork de rencontres et j'ai pris chez chacun d'entre eux des morceaux de pensée, de réflexion ou de choix qui m'ont beaucoup inspirée. Et je n'ai pas de personne, j'ai pas eu la rencontre qui a bouleversé ma vie. Je l'attends encore d'ailleurs.
Ah, puis vous avez encore le temps largement de la voir. Anne-Laure Bonnel, on parle de livres. Vous avez fait un choix, L'Empire du Bien de Philippe Muret aux Belles Lettres. Pourquoi ? Alors, c'est un polémiste connu, Murray, hein, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, 2006, je crois. Essayiste, romancier, grand polémiste.
Pourquoi ? Parce que, à sa manière et de façon assez drôle, du reste, il a réussi à poser le regard sur sa société, sur contemporaine, qui est très proche de la nôtre, hein, d'ailleurs, sur, à force de s'amuser, non-stop, on s'amuse, mais on est confronté aujourd'hui, pour reprendre une de vos réflexions, à une certaine vacuité. On a pu obtenir la culture du bien-être et en même temps, on est dans une phase où les gens sont profondément malheureux. Mais avant Covid, hein, au-delà de ça, hein, perte de sens, perte d'idéaux, perte de... cette société du paraître et de l'amusement intempestif et généralisé et voulu comme tel, finalement, a laissé un grand vide et un grand malaise. Et c'est un essayiste que j'apprécie. Et dont je ne partage pas tous les points de vue d'ailleurs, hein, mais j'ai aimé sa manière de croquer toutes nos failles, toutes les failles d'un monde qui a essayé de réfléchir, qui a décidé de ne vivre que pour s'amuser. Et ça, on le voit quand même pas mal. Hein, voilà,
on ne voit même que ça d'ailleurs.
Voilà, le culte de ça. Vous devez être heureux, vous devez se rire, s'amuser, etc. Moi, c'est un gros problème d'ailleurs chez moi. Je vous fais une petite. Je parle de moi là. Combien de fois on m'a dit, mais Anne-Laure, mais ris. On ne peut pas rire en permanence. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas joyeux en soi-même. Mais à un moment donné, il faut. Voilà, on en revient à retenir. Il y a des choix. Et j'envie, enfin, j'envie, non, je ne les envie pas, mais ce rire comme ça qui est projeté comme. Le summum du bien-être, et si vous n'avez pas ce rire-là, eh bien, vous n'avez pas réussi votre vie. Voilà, on a fini là, le côté ces gars-là. Si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu n'es pas un homme. Aujourd'hui, si tu ne sais pas te marier, être léger, eh bien, tu es has-been. On a perdu, moi, non pas le sens. On ne peut plus se permettre de réfléchir. Vous voyez, ça devient suspect. Hein. On n'est pas cool, en fait. On est chiant. Voilà. Moi, on me dit souvent que je suis chiante. Hein. Voilà, je vous le dis, Jacques. On me dit, arrête de te prendre la tête. Voilà.
Je le comprends d'autant plus que c'est un reproche qui m'est fait assez souvent par les miens et les gens qui m'entourent. Moi, je vais vous parler d'un autre livre. Alors, on va faire peut-être un tout petit peu plus léger. Ça s'appelle « L'autre art contemporain ». Ça a été écrit par Benjamin Oliven. C'est sous-titré « Vrais artistes et fausses valeurs », publié par Grasset. Alors, c'est un ton enlevé, il n'y a pas du tout de langue de bois chez Oliven. On peut dire que l'auteur, lui, met carrément les pieds dans le plat lors de sa réflexion qui porte sur le beau. Et puis, il parle de ce qu'il appelle les clowneries de l'art contemporain. Alors, une langue précise, des jugements d'esthète. Il connaît extrêmement bien le monde de l'art, c'est un tout jeune homme, hein. Et puis, il nous parle de la découverte d'artistes figuratifs de qualité et qui, malheureusement, exercent en marge des grandes institutions de l'art contemporain que l'on ne connaît pas. C'est un discours extrêmement séduisant et qui permet de revisiter beaucoup de figures de l'art. Donc, encore une fois, Benjamin Oliven, l'autre art contemporain chez Grasset et pour le choix dans leur bonnet, je le rappelle, l'Empire du Bien, Philippe Muret, que vous trouverez aux belles lettres. Anne-Laure Bonnel, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses, mais on le dira peut-être un jour, mais pour l'heure, nous sommes arrivés, même certainement dépassés l'heure, mais la marque de fabrique d'Esprit Occitanie, c'est de prendre son temps, d'aller au fond des choses et de laisser les gens qui ont quelque chose à dire, qui ont une cervelle entre les oreilles, de les s'exprimer, de les écouter, de nous informer. Vous l'avez fort bien fait. Merci de cette heure passée en notre compagnie.
C'est moi qui vous remercie, c'est très plaisant de dialoguer avec vous.
Merci voilà. Anne-Laure. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. avec à la technique et au montage Yanis Boudin, que je remercie. Et vous pourrez retrouver bien sûr le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie et sur l'application dédiée pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.